esprit, tu puisses parler par ton esprit. Nous avons besoin de toi et nous te remercions pour la grâce que tu nous aies amené jusqu'à là. Notre vie est dans ta main. Chaque soupe, c'est un cadeau de toi et nous prions que tu continues de préparer ton Église pour ton proche retour. On peut lire le commandement le plus important dans la Bible dans Matthieu 22. Matthieu 22, 36 à 40. Matthieu 22, 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Mais voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. »
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que nous aurions réussi de résumer toute la loi d'une façon si efficace? Le Seigneur lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Nous vivons dans un temps durant lequel le retour du Seigneur est si proche. Quelle doit être la condition de son épouse lorsqu'il revient? Une chose si centrale est l'amour envers Dieu et envers les hommes. Et quand il parle de la fin des temps dans Matthieu 24, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Qu'est-ce qui compte aussi lorsqu'il revient? Dans Luc 18, verset 8, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Il dit aussi dans Matthieu 24, « Qui est le serviteur fidèle ?» qui donne la nourriture en temps convenable. Notre humilité, notre zèle, la sainteté, la confiance que nous avons sont des éléments qui comptent. 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Il n'y a pas d'autres disciples qui a parlé davantage au sujet de l'amour que Jean. Ça signifie que l'amour est central, spécialement si nous nous préparons pour le retour du Seigneur. Si nous continuons de lire dans 1 Jean, verset 7 et suivant, c'est peut-être chapitre 2. Oui, ce chapitre 2, verset 7. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Le commandement de l'amour, en effet, n'est pas nouveau. Nous le lisons déjà dans la loi. Si nous revenons en arrière, dans Deutéronome 6, verset 4, Dieu ordonne déjà à son peuple, « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force. Et le commandement à l'égard du prochain n'est pas nouveau. Tu aimeras ton frère tu ne te vengeras pas. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. C'est très encourageant de voir à quel point le Seigneur ne change pas. Il est le Dieu qui était, qui est et qui vient. Et sa parole et son opinion ne changent pas. Parfois, les hommes essayent de séparer ces choses. Dans l'Ancien Testament, Dieu est ainsi, et dans le Nouveau Testament, Dieu est différent. Mais ici, nous avons la confirmation que Dieu est le même. L'Ancien et le Nouveau Testament, Dieu est toujours le même. Et à quoi reconnaissons-nous l'amour? 1 Jean 2, verset 9. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Ça signifie que cela dépend de notre relation avec notre frère. Le problème, ce sont les pierres d'achoppement. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Et dans l'Église, il en va d'avoir des relations les uns avec les autres. Et peut-être qu'il y a une pierre d'achoppement. Peut-être que je comprends mal une certaine chose. Tout à coup, il y a une occasion de chute qui est là. Alors, nous devons vraiment apporter cela devant le Seigneur et le traiter devant le Seigneur. Afin qu'il n'y ait rien qui pousse dans nos cœurs, qui nous pousse à la chute. Souvent, j'ai fait l'expérience qu'il est très important de parler avec les frères, et pas parler des frères. Et souvent, lorsqu'on engage une discussion avec quelqu'un, pour poser la question, est-ce que tu as déjà parlé de cette chose à ton frère? Parfois, il faut un peu de courage, mais j'ai fait beaucoup d'expériences positives en parlant directement au frère. Cela évite une occasion de chute. Même dans la prière, j'ai remarqué, souvent je prie souvent au sujet d'un frère qui n'est pas présent. Il est aussi bon de prier avec et pour ceux qui sont présents. Bien sûr, nous prions pour ceux qui sont absents, mais j'ai toujours à nouveau remarqué, parler avec le frère et pas au sujet du frère, et parler avec le frère et pas prier avec le frère et pas prier au sujet du frère. Cela évite que le diable ait une emprise parmi nous, mais aussi des frères qui sont à l'extérieur de notre réunion. À mon travail, il y a des frères et sœurs qui ne se rassemblent pas avec nous. Même parfois, il y a des pierres d'achoppement à cet endroit-là. Car si quelqu'un vient d'un autre arrière-plan, je vois rapidement ce qui n'est pas en ordre, ce qui n'est pas fait tout à fait juste. Et parfois, je juge même ces choses. Alors, le Seigneur m'a montré aussi comment, à quoi ressemble l'amour. Je le lis dans 1 Corinthiens 13, versets 6 et 7. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Le Seigneur m'a montré dans ma relation avec les frères qui ne se rassemblent pas avec nous, nous devons aussi nous laisser conduire par le Seigneur et leur parler dans l'amour. Parfois, c'est très important que nous puissions aussi dire quelque chose, parce que l'amour ne se réjouit point de l'injustice, se réjouit de la justice. Mais je me demande parfois, est-ce que le frère remarque que ce que je suis en train de lui dire, je le dis de l'amour, que je ne le fais pas pour qu'il y ait un dommage quelconque ou pour le juger, mais parce que j'aime ce frère. Nous continuons de lire dans 1 Jean 2, versets 12 à 14. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. C'est si bien de voir comment Jean parle aux différents groupes d'âge. Il parle aux petits-enfants, il parle aux pères, il parle aux jeunes gens. Parce que dans l'Église, nous sommes comme dans une famille, la famille du Dieu vivant. Ça confirme aussi Paul dans Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. N'est-ce pas un grand privilège que nous sommes, par Jésus, nous sommes entrés dans la famille de Dieu? Et malgré le fait qu'il y ait des arrière-plans différents, des cultures, des langues différentes, nous sommes des frères et sœurs. Maintenant, nous avons aussi le privilège de connaître des frères et sœurs que nous ne connaissions pas, Mais dans l'esprit, nous remarquons qu'il y a un lien. Ce sont des frères et sœurs. C'est quelque chose de très précieux, qu'il y a quelque chose de semblable. Nous sommes liés à tellement de gens différents. C'est aussi un témoignage dans ce monde. Dans Jean 13, 34, c'est à l'amour les uns pour les autres que nous allons voir que nous sommes son témoignage. Les gens de l'extérieur vont remarquer que nous nous aidons mutuellement, nous parlons la vérité les uns aux autres. Et dans Timothée dit, dans 1 Timothée 5, verset 1, ne réprimons pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. C'est si précieux dans l'Église que nous sommes frères et sœurs. Dernièrement, j'ai parlé avec un frère. Il m'a dit qu'il était étonné que nous soyons des frères et sœurs. Ce n'était pas automatique que ce soit le cas. Dans chaque ménage, je vous parle aussi de mon arrière-plan en tant que père avec 4 enfants. Il y a plusieurs étapes de la croissance. Dans la famille, les membres n'ont pas atteint la même croissance. Et Jean fait aussi des différences ici. Il ne parle pas de la même manière à chaque membre. Il parle aux enfants parce que les péchés leur sont pardonnés. Peut-être que pour les pères, ils vont se dire « Ok, j'ai appris cela depuis longtemps, mais pour un enfant, c'est une nouvelle révélation. Je peux venir à Jésus et puis il me pardonne entièrement. » Et le diable, l'accusateur, n'a plus d'accès parce que mes péchés sont pardonnés. Et au père, il leur parle différemment. Pour eux, il y a une parole différente. Car chacun a besoin d'une parole appropriée. Nous devons aussi apprendre de cela. Lorsque nous prions, nous dispensions la parole, la nourriture, nous pouvons prier notre Père pour que nous puissions apporter une nourriture appropriée. Souvent, pour moi-même, je mets un autre degré. J'applique pour moi-même un autre degré de tolérance. Paul est dit, je traite durement mon cœur, mon corps. Je dois vraiment veiller à ne pas reporter ma propre expérience sur les autres. J'ai besoin de la sagesse de Dieu. Et nous essayons d'optimiser notre quotidien, de racheter le temps, afin que nous puissions tout faire vite et juste. Dans la famille, c'est pas si simple, c'est pas si automatique. Parfois, nous expérimentons cela comme une charge parce que ça nous limite et nous n'avançons pas aussi bien. Mais j'ai vu que c'est un terrain d'exercice merveilleux pour croître dans l'amour. parce que l'amour est patient et supporte tout. Et mes enfants ressentent cela très bien si je leur parle par amour ou si je leur parle comme si c'était un devoir de père de les reprendre. Ils remarquent cela. Ils le sentent si c'est motivé par l'amour. Et dans l'Église, c'est la même chose. C'est aussi un terrain de croissance. Nous avons des services pour les enfants. Et je ne veux pas juste faire cela parce que c'est un devoir. Je veux le faire de tout mon cœur. Et je crois qu'un élément central dans la famille, c'est la vie. Cela m'a beaucoup réjoui que nous ayons pu avoir de la communion libre autour de la vie. Et dans ma lecture quotidienne, j'ai lu dans Nombre 14 à quel point la vie est aussi l'autorité avec laquelle Dieu certifie qu'il parle à Aaron. Dieu ne parlerait-il pas aussi par nous? Donc c'est la confirmation que Moïse a l'autorité en fait avec les 12 verges. Et puis il y a une verge qui a fleuri et qui a porté même du fruit, des amandes. Ça c'est la vie. Une verge avait la vie. C'est ce qui a certifié l'autorité de Dieu en Moïse. La verge qui fleurit est le signe confirmé par Dieu. C'était un signe de la vie et aussi de la vie de l'Église, de la vie familiale. Nous avons affaire avec des êtres vivants. Comprendre la vie est quelque chose de plus complexe. L'être humain peut bâtir des machines, mais reproduire la vie, c'est très difficile. Notre cerveau est beaucoup plus compliqué que tous les réseaux que l'homme a pu inventer. De quoi la vie a-t-elle besoin pour qu'elle puisse croître en nous? Elle a besoin d'un environnement protégé. À nos enfants, nous donnons des limites qui les protègent. Nous disons par exemple, lorsqu'un étranger vient et dit dans ma voiture, je te demande quelque chose, ne va pas dans cette voiture, ne le crois pas. C'est une limite, mais c'est bon pour leur vie. Ils ont besoin de ces limites, pour leur sécurité. Il y a aussi des limites spirituelles. Honore ton père et ta mère. Et aussi, dans le milieu spirituel, Dieu nous donne des limites. Les commandements. J'ai lu aussi dans Proverbes, chapitre 7, verset 27. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. C'est cette femme qui conduit à l'adultère. Elle descend vers les demeures de la mort. Proverbes 7, 27. Qu'est-ce qui apporte la vie? Qu'est-ce qui apporte la mort? Ou bien le chapitre 8, verset 36. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. J'ai remarqué, quand il va en va de la vie, nous avons besoin de limites, de frontières. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu Si nous rejetons la sagesse, ça va nous conduire à la mort. Mais nous ne devons pas produire davantage de règles que nécessaire. Les pharisiens ont développé beaucoup de règles supplémentaires afin qu'on ne passe pas à côté d'une seule loi. Et ça peut vraiment retenir ou handicaper. Avec nos enfants, nous souhaiterions aussi les emballer dans du coton pour qu'il ne leur arrive rien. Les enfermer dans une chambre pour qu'il n'y ait rien qui leur arrive. Mais le Seigneur n'est pas comme ça. Je dois aussi apprendre à leur laisser de l'espace libre. Notre fille de 5 ans est allée pour la première fois chez le boulanger. Même si c'est difficile pour nous, les parents, de l'envoyer, mais j'ai moi-même aussi appris en tant que père que c'est important dans le processus de croissance. Les enfants ont besoin de domaines dans lesquels ils peuvent prendre des décisions seuls, où ils peuvent marcher seuls. J'apprends beaucoup de choses pour la vie spirituelle, par l'exemple des enfants. Leur laisser un espace, laisser aux autres un espace, cette croissance de la vie en a besoin. Nous ne devons pas nous limiter avec nos représentations. Comment dans la vie chrétienne, ça doit être. Ça doit être comme ci, comme ci, comme cela. Nous devons être libres de suivre le Seigneur. Dans Ézéchiel, j'ai lu ces roues qui se déplacent comme l'esprit les déplace. Ils sont toujours en mouvement. Nous devons parfois aussi laisser de côté certaines représentations et dire au Seigneur, « Seigneur, je suis mobile pour toi, je vais te suivre dans ce pas. » Par exemple, disons des choses de manière globale, que le Seigneur nous montre, nous devons vraiment être fidèles. Mais j'ai vu ça d'une autre perspective. Certains signes sont des phrases types comme ça qui sont dites, qui ne sont pas directement du Seigneur. Donc les slogans, on doit les laisser de côté. Mais vraiment chercher la conduite vivante du Seigneur. C'est aussi une manière de le connaître. Que ne soyons pas animés de certaines représentations, mais nous voulons vraiment connaître le Seigneur maintenant. Qu'en est-il dans cette situation? La vie a besoin d'approvisionnement. Nous avions cet exemple du jardin où début, le vendredi soir, pas d'école, et il fait un jardin. Le jardin nous montre aussi qu'est-ce qu'il faut faire avec un jardin. Il faut l'arroser, il faut mettre de l'engrais, travailler la terre. Il en va de même avec nous. Nous avons besoin d'un approvisionnement physique. Quand je considère mon épouse, comment elle cuisine journellement pour que les enfants puissent croître dans la vie, spirituellement, c'est la même chose. Les frères préparent tous les jeudis, le dimanche, la parole qui vient du Seigneur pour qu'un bon approvisionnement puisse être là. Et nous considérons cela et nous réalisons, mais ce n'est même pas suffisant, nous devons venir tous les jours à la parole. Aussi nourrir nos enfants par la parole pour qu'ils soient approvisionnés. L'approvisionnement de la vie, de la maison de Dieu est central. Je me suis demandé pourquoi les sœurs ne sont pas mentionnées. Pourquoi est-ce que Jean mentionne les enfants, les jeunes, les pères? Oh, ils sont inclus. Et souvent, les mamans ont besoin en tant que frères, nous ne devons pas oublier nos épouses, car dans Éphésiens 5, verset 33, il dit aux hommes, aux maris, que chacun aime sa femme comme lui-même. Et aussi soutenir nos épouses, parce qu'il en va le travail avec les enfants. Lorsque je demande aux sœurs, est-ce qu'elles sont assez approvisionnées? Nous devons aussi veiller à ce que nos épouses aient suffisamment d'approvisionnement pour qu'il n'y ait pas de manque dans l'Église. Amen.